Bonjour, moi j'ai été étonnée de vous entendre dire, mais peut-être que j'ai mal entendu ou mal compris, qu'il y avait des enfants pauvres en IME et que le critère sur lequel ils, le critère pour lequel ils avaient été placés en IME était justement celui-ci.
Je n'ai pas vu la personne qui avait le micro, mais bon.
C'est moi.
Voilà. D'accord, pardon.
Alors, je suis vraiment très, très étonnée. Bon, je dirige un collège aussi. Hein. Je suis même assez stupéfaite, étant donné... j'applique la loi de 2005 comme tout le monde. Hein, je vois selon quels critères, aujourd'hui, les élèves sont orientés... il y a quand même... vers les IME. D'abord, premièrement, les élèves handicapés, la MDPH est saisie par les familles, pas par l'école. Ensuite, je pas la tête, c'est la MDPH. Est... Non, mais c'est pas vous que je dis ça. La MDPH est bien saisie par les familles. Ensuite, les commissions qui vont décider de l'orientation à la MDPH sont des commissions dans lesquelles... Non, mais je tiens à le préciser parce que je pense que c'est quand même important. Ce sont des commissions dans lesquelles l'éducation nationale est ultra minoritaire. Hein, donc, je voudrais quand même le dire assez fortement parce que je pense qu'il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, l'école est toute puissante et va orienter vers les établissements comme ça, quoi. Parce que, alors bon, peut-être que j'ai mal compris ce que vous vouliez dire, mais je tenais quand même à le repréciser. Oui. Deuxième petite chose, et puis je vais ensuite rendre la parole, pour la jeune fille dont vous avez cité les propos, je doute pas un instant que cette orientation s'est faite comme ça. Hein. C'est extrêmement malheureux, mais je voudrais là aussi rappeler que le redoublement est vraiment entre les mains, là aussi, des familles. Hein, et que là, vraiment... Si.
Enfin, bon, je vous laisse finir.
Si.
Je vous laisse finir.
Hein. Si,
bon.
Vraiment. Si. Et... non. Non.
Non, mais je voulais...
Non.
Finissez, madame, finissez.
Le redoublement est entre les mains des familles, et du reste, dans le collège que je dirige, c'est même exclusivement entre les mains des familles, puisqu'on ne peut pas refuser un redoublement aux familles. Et tous les redoublements dans mon collège sont des redoublements demandés par les familles. Mais enfin, bon, ça, c'est... Je ferme là l'incise, mais... en revanche, effectivement, je veux bien entendre que des familles ne soient pas informées de ça. Mais c'est qu'il y a là un mauvais travail qui est fait par le collège. Hein. Mais vraiment, une famille a toujours le droit de demander un redoublement. Et nous ne pouvons pas le refuser. Hein. Vraiment. Ça, il faut quand... Là aussi, il faut quand même le dire. Et voilà, ça, c'était vraiment ce que je voulais dire. Et également, je voulais aussi un peu nuancer, bien sûr, il y a peu d'élèves de milieux défavorisés en collège, en lycée général et technologique. Dire qu'il n'y en a pas du tout, je vais encore une fois être auto-centrée. Dans mon collège, il y a 55% d'enfants de PCS défavorisés. Nous ne sommes pas en éducation prioritaire, nous sommes en zone sensible. Hein. C'est quand même, il y a quand même... une proportion non négligeable. Nous intégrons avec un taux de redoublement à l'issue de la seconde ou une réorientation à l'issue de la seconde très faible. Nous orientons 70% des élèves de troisième vers la seconde. Donc forcément, nécessairement, une partie d'élèves d'enfants de PCS défavorisés. C'est pas non plus... alors effectivement, il y a une corrélation évidente hein, que je veux pas nier. Dire qu'il n'y a pas d'élèves, ça me paraît là encore un propos à l'emporte-pièce qui, à mon avis, demanderait nuance. Voilà.
Alors, on va reprendre les trois points. Sur le premier point, je vous ai dit donc que c'était une question qu'on avait soulevée, qu'on avait travaillée avec les partenaires et sur laquelle on n'a pas fait de proposition sur l'orientation. L'orientation aussi bien, le dernier point que vous venez de dire, orientation en fin de collège, que l'orientation dans l'enseignement spécialisé. Ce que je vous ai dit aussi, ce sont des faits, c'est-à-dire la réalité est là. Voilà. Donc on peut pas nier la réalité. Que je vous donne un fait, alors là un fait indiscutable. Il est vrai que pour être en CLIS ou en ULIS, il faut en effet avoir un dossier d'orientation de la MDPH. Lors d'une université populaire, ça se passait à Caen, il était question de l'école, donc c'était sur le sujet de l'école, et l'invité était un directeur d'école. Puisque je dis qu'il y a toujours un invité qui donc apporte la parole du professionnel du sujet abordé. Et en parlant, tout à fait normalement bien sûr, le directeur d'école explique donc l'orientation en CLIS, et c'est pendant l'université populaire qu'un certain nombre de mamans présentes se sont rendues compte que leur enfant avait été étiqueté, si je puis dire, handicapé. C'est-à-dire que le dossier d'orientation MDPH, elle n'avait pas du tout compris que ça impliquait un handicap. Autrement dit, il y a la réalité vécue par certaines familles, et puis il y a les textes. Et entre la réalité vécue par certaines familles et les textes, il y a souvent un écart. Et l'orientation précoce, quelquefois dès la maternelle, en CLIS ou dans le primaire, n'est pas toujours vécue par les parents d'une manière très claire. C'est-à-dire que l'explication qu'on leur a donnée n'est pas toujours très claire. Quant à l'histoire que je vous disais des adultes que nous rencontrons et qui racontent pour beaucoup d'entre eux des passages par... C'est ça que je vous disais, hein. C'est que beaucoup d'adultes racontent leur passage par des IME, etc. Moi, j'ai, enfin, encore une fois, un souvenir précis. Le premier engagement qu'on m'a demandé de prendre dans le mouvement ATD Carmont, c'était d'apprendre à lire... à un jeune père de famille, parce que son fils arrivait au CP, ce jeune père de famille me disait « j'ai été à l'école des fous ». Alors l'école des fous, bon, il se trouve que je connais un peu le milieu du handicap, j'ai compris que c'était un IME. Quand je discutais avec lui, je ne voyais pas pourquoi, enfin mentalement parlant, je ne voyais pas pourquoi il était allé en IME, c'est tout. Son histoire fait qu'il était allé en IME, je ne vais pas dire autre chose. Donc il y a des faits, si vous voulez, voilà. Bon. Et encore une fois, j'ai pas de proposition à faire là-dessus, j'en sais rien. Mais il y a une question, il y a vraiment une question. Mais il y a aussi des enfants actuellement qui vivent la même chose et qui, dans 20 ans, seront les adultes qui raconteront la même chose.
Hein? Voilà. Juste pour compléter ce que vous avez dit, je donne troisième prépa pro. Bon, 57% de CSP défavorisés sur le LP dans lequel je travaille. Troisième prépa pro, 100% de CSP défavorisés. Première année de CAP, 100% de CSP défavorisés. Voilà. Donc là...
Et puis, les SECPA. Les SECPA, hein, voilà. Bon, voilà. Enfin, on va peut-être pas rester uniquement sur cette question-là, mais voilà. Mais pour prendre aussi le troisième point que vous avez dit, hein, sur l'orientation en fin de collège, Attendez, excusez-moi. J'avais noté, et puis je ne sais plus ce que vous avez... Sur le redoublement, oui. Là aussi, il y a des textes et il y a la réalité. Combien de collèges n'acceptent pas le redoublement en fin de troisième parce que l'élève n'a pas le profil, tout simplement. Voilà. Et les parents ne savent pas, en effet, leurs droits. Ça, c'est clair. Oui. Voilà. Ou bien parce que l'élève a déjà 16 ans et que s'il a 16 ans, on n'est pas obligé de le prendre. Voilà. C'est une réalité aussi dans beaucoup de collèges.
Hein. Je voulais simplement dire qu'avant la loi de 2005... L'éducation nationale a fait n'importe quoi dans les orientations, il faut quand même le dire. Hein. Et c'était l'éducation nationale qui avait la main pour orienter les enfants et qui a eu des abus de toutes sortes, y compris de la part du premier degré dans les orientations en CCPE. Voilà. Et c'est pour ça, en grande partie, que la main lui a été retirée. Je voulais témoigner d'une expérience. Il y a quelques années, dans une ZEP de 3500 élèves, j'ai remonté 12 ans en arrière et j'ai retrouvé les listes de 174 enfants qui étaient rentrés au CP. Et donc, ils étaient censés être en terminale. Et on a pris des listes nominatives, donc, et il y en avait 5 en terminale, 2 en S, 2 en B, en sciences éco, là, et 1 en littéraire. On les a interrogés, enfin c'est juste anecdotique, quoi. Mais il n'y en a aucun qui se visionnait dans des études supérieures. Parce que les deux qui étaient en S, c'était un garçon et une fille. Lui voulait être gendarme et elle voulait être infirmière. Enfin, des études supérieures longues, on va dire. Et voilà. Témoignage, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans. Voilà.
Il y a hier, Patrick Picard, c'est ça, oui, nous prévenait contre le risque de bien gentiment dans notre cocon apparaître comme ceux qui s'interrogent, qui réfléchissent, et par rapport à un monde extérieur où il y a beaucoup de méchants. Et je dois dire qu'à travers ce que j'ai entendu là, c'est un peu ce à quoi ça m'a renvoyé. Parce que vous nous dites que vous basez sur des faits, certes, mais une argumentation, somme toute, pour laquelle il me manque quand même un petit peu de données chiffrées. Parce que pour travailler quotidiennement avec les conseillères d'orientation pour des élèves en décrochage scolaire sur l'atelier relais, pour des élèves décrochés sur la cellule de veille éducative, il y a quand même un travail immense qui est mis en place par toutes ces conseillères d'orientation pour recevoir les élèves, rechercher les familles, les mobiliser, quel que soit leur CSP, et qu'on a un petit peu tendance, quand on entend ce que vous nous dites, à considérer que ou les méchants processus d'orientation de l'éducation nationale en niant quand même un petit peu l'investissement énorme, et que 150 000 jeunes qui sortent sans qualification, qui est un chiffre qu'on nous dit, qu'on nous redit, sans regarder dans le détail ce qu'il en est, ce qu'il en est de jeunes qui sont dans un quartier et qui refusent d'aller faire un stage à 10 minutes au centre-ville parce que c'est pas leur quartier, des jeunes qui ne se présentent pas, des familles aussi effectivement qui peut-être ne sont pas informées de leurs droits, de légitimité du redoublement, ça on le nie pas, mais je ne suis pas convaincu que ce soit des faits généraux et qu'on véhicule et on continue de maintenir une image des acteurs de l'éducation nationale qui se mobilisent alors qu'on n'est pas dans l'exclusion complète telle que vous nous la présentez. Parce que du point de vue purement spectateur, c'est le message que personnellement j'ai reçu. Alors, peut-être que je suis fatigué, que j'ai pas tout compris, mais ça me dérange quand même par rapport au travail qui est fait dans la réalité de tous les jours de ces personnels qui s'investissent.
J'aurais 2 remarques sur ce que vous avez dit. C'est que ma manière de dire les choses est peut-être un peu trop carrée. Ça ne veut pas dire que j'enlève quoi que ce soit à ce que j'ai dit. Mais il n'est jamais question, dans ce que j'ai dit ou dans ce qu'on dit ensemble dans la Télé Quart-Monde, de mettre en cause le professionnalisme des acteurs de l'école. On a une école qui est structurée d'une manière telle que les personnes très pauvres... Alors quand on dit catégorie sociale défavorisée, nous, c'est les défavorisés des défavorisés. Hein. Allons bien jusqu'au bout du défavorisé. Je pense à ma petite expérience de collège. Quand je pense à des jeunes de milieux très défavorisés, souvent, ils n'étaient même pas en classe jusqu'en troisième. Hein. Ils étaient déscolarisés avant. Faut vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'on appelle les défavorisés. Bon. Et très franchement, vous voyez, je vous parlais de ce séminaire de juillet, je vous parlais de cette rencontre à Lyon. Quand on est face à eux, le constat que je vous ai fait, c'est vraiment le constat qu'on entend. J'ai pas de chiffres là, voilà. Mais loin de nous l'idée de mettre en cause le professionnalisme des acteurs de l'école, mais qui sont dans un système d'école actuellement qui est, je vais prendre l'image d'un Lyonnais bien connu qui est Philippe Mérieux, qui parle d'une école centrifugeuse, c'est-à-dire d'une école qui, au fur et à mesure qu'on avance, exclut. Le système est celui-là. Je n'y peux rien. Moi, les 7 ans que j'ai passés en collège, ce que je vous ai dit, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Je vois pas... Je peux pas inventer ce que je n'ai pas vu. J'ai vu des jeunes quitter le collège en 4e. Et puis, alors de fait, ça n'empêche pas que des professionnels divers, principal ou autre d'ailleurs, faisaient tout ce qu'il fallait, tout ce qu'ils pouvaient pour qu'ils reviennent à l'école. Et puis, ils n'y revenaient pas. Ça n'empêche pas que dans mon bureau, j'ai participé à des orientations du type de celle de Priscilla tout à l'heure parce que j'avais pas d'autre moyen que de faire celle-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce tour de... Enfin, une fois qu'il y a eu ce premier tour d'orientation en lycée professionnel et qu'un jeune n'a pas eu la section qu'il voulait, et puis qu'on sait qu'il l'aura pas dans la ville où on est parce qu'il y a plus de place, eh ben on lui dit, si tu veux vraiment aller en lycée professionnel, il y a de la place là, il y a de la place là, il y a de la place là. Je l'ai pratiqué, ça. Voilà.
Mais je vais rebondir là-dessus, si vous voulez bien. Le problème auquel on est confronté, c'est la multiplicité des expertises qui sont pertinentes. Je vais vous poser une question très simple. Est-ce que dans la rencontre lyonnaise, la mission régionale d'information sur l'exclusion a été impliquée ?
Oui, j'ai oublié de les citer, mais ils étaient partenaires. Très bien. Tout à fait. Oui.
L'autre question, c'est toujours pour les Lyonnais, est-ce que le colloque mobilisation des savoirs dans des espaces intermédiaires de l'action publique qui était conduite ici à l'ENS par des juniors a été porté à votre connaissance ?
Moi, personnellement, bon, non, mais
alors,
je ne sais pas.
Bon, alors, voilà. Si je rajoute là-dedans le réseau français des villes éducatrices, oui. dont Yves Fournel est le pilote ici, moi je suis à Défense Enfantation de France, je connais fort bien ces réseaux-là, et le réseau des villes. Bon. Et donc, nous avons une multiplicité d'expertises et de réseaux qui ont besoin de faire territoire ou de fonctionner comme une galaxie en réciprocité positive. On est très très loin du compte. Donc, en tout cas, ce qui était dit là, c'était qu'il y a le sentiment que il y a des maillons manquants. Parfois, les gens ont fait le boulot. Simplement, on ne le sait pas ou les conditions n'ont pas été réunies. Mais voilà, c'est tout. Mais ça me semble important de le dire parce qu'il se fait des choses fabuleuses sur ces territoires avec des expertises.
Tout à fait. Moi, ce que j'ai voulu essayer de vous dire, c'est que on peut réfléchir des questions de société, on peut réfléchir des questions politiques en faisant activement participer les très pauvres dans cette réflexion. Alors, sachant que nous, on est parti du constat que je vous ai dit, mais que c'est l'essentiel, il est quand même là. C'est-à-dire qu'on ne changera pas l'école profondément si on n'implique pas dans la réflexion ceux qui en sont les plus éloignés. Voilà.